Le journal de Léonie Yadrover.
Bonsoir. Le sort des enseignes Migros présentes au M-Park à Delémont n'est pas encore entièrement joué. Les magasins de meubles Mikasa seront repris par leur actuelle direction, mais en l'absence de solution globale pour les activités jardin et bricot, Migros négocie au niveau régional. La semaine blanche fait les affaires des loueurs de matériel de sport d'hiver. Les Jurassiens ont largement fait appel aux magasins spécialisés en vue d'une escapade en montagne. En revanche, rares sont les touristes extérieurs dans le Jura cette semaine. De nouveaux départs au département fédéral de la Défense. On apprend aujourd'hui la démission du chef de l'armée et celle du chef des renseignements. Dossier de notre correspondante à Berne dans ce journal. Des averses sont toujours possibles ce soir et cette nuit sous forme de neige des 700 à 900 mètres d'altitude d'ici demain matin. Météo News prévoit ensuite des éclaircies de plus en plus belles au fil de la journée sous des températures de saison. L'affaire de la tête de porcelet dans une boîte aux lettres à Cornol a été entendue par la justice. Cet après-midi, devant le tribunal de première instance à Porrentruy, il était question d'une infraction pour souillure à la propriété d'autrui et injure. Le conseiller communal lésé Michel Comand a déposé une plainte peu de temps après ces faits commis fin octobre 2023. Sur le banc des accusés se trouvait un ancien élu communal qui clame son innocence. Malgré des divergences politiques entre les deux hommes, aucune preuve ne peut établir que le prévenu ait déposé cette tête de porcelet, selon la plaidoirie de la défense. La partie plaignante affirme pour sa part qu'un faisceau d'indices ne laisse pas planer le doute. Nancy Chapuis.
La veille de cette macabre découverte, le prévenu avait commandé un cochon de lait pour partager ce repas avec des convives à son domicile. Le lendemain matin, une tête de porcelet se trouvait dans la boîte aux lettres. Pour Maître Zébio, il ne fait aucun doute que l'accusé a lui-même déposé le cochon dans le but d'intimider son client et sa famille. Que l'ancien élu communal se contredise en cours de procédure sur le lieu où ont été jetés les restes de l'animal prouve sa culpabilité dans la poubelle par sa femme ou enfouie dans le tas de fumier, la version qui a été plaidée. La partie plaignante demande à ce que l'accusé soit reconnu coupable et sanctionné par une peine pécuniaire et une amende ainsi que 500 francs pour tort moral. Pour la défense, aucune preuve ne figure dans le dossier. Maître Terrière rappelle qu'on ignore si la tête retrouvée était bien celle livrée à son client. La police n'a pas trouvé de traces de pas, d'empreintes. L'épouse, entendue en tant que témoin, affirme que son mari n'a pas quitté le domicile familial de la nuit. L'avocat Brun Trutin plaide l'acquittement.
Le juge pénal David Cunha rendra sa décision ultérieurement. L'incertitude demeure quant à l'avenir de l'enseigne Do It Garden à Delémont. Migros a annoncé ce matin la fermeture de la plupart de ses magasins spécialisés dans le bricolage et le jardinage, faute de repreneurs. Plus de 450 employés travaillent aujourd'hui sur une trentaine de sites Do It Garden dans toute la Suisse. Dans le cas de l'enseigne présente au M-Park à Delémont, les démarches sont encore en cours pour trouver un repreneur. Nicolas Meusy.
La restructuration de Migros se confirme donc avec la disparition de Do It Garden quelques mois après celle de Sporix et Melectronics. Sur le site Delémontin d'ailleurs, ces deux entités ont été reprises par Ochsner Sport et par Mediamarkt. Contacté par la rédaction de RFJ, Migros indique que le site Delémontin est encore en cours de cession. Toutefois, si aucun repreneur n'est trouvé, le magasin sera fermé au plus tard à la fin du mois de juin. Tant que le processus régional de vente n'est pas terminé, le géant Orange ne veut pas donner d'informations sur d'éventuels changements de personnel. Ailleurs, en Suisse, certains sites de Do It Garden seront repris. C'est le cas notamment à Carouge ou à Nyon, où les magasins passeront sous la bannière Hobby.
Par ailleurs, Migros a annoncé que son enseigne dédiée à l'ameublement Mikasa était vendue à sa direction actuelle. La nouvelle société reprendra l'intégralité des activités le 1er septembre. L'ensemble du personnel et des apprentis seront repris par les nouveaux propriétaires selon le géant Orange. Le service des infrastructures fait le ménage sous les ponts de l'autoroute A16. L'action fait suite à une demande de l'Office fédéral des routes. En 2020, il a fait recenser les objets et engins présents sous les ouvrages. Depuis, la situation a empiré dans le canton du Jura. L'unité territoriale 9 sera chargée de débarrasser tout le matériel entreposé illégalement sous les ponts de l'A16. Son chef, Daniel Stadelmann.
En 2020, il y a un premier état des lieux qui a été fait et à ce moment-là, on signalait uniquement quelques tas de bois à gauche à droite, donc c'était encore relativement supportable. Et puis depuis, il y a un petit peu une emballée et là, aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment des vraies décharges quasiment sous certains ouvrages. C'est vraiment différentes entités, soit des privés, des agriculteurs, des sociétés qui entreposent du matériel, soit momentanément, soit à long terme sous ces ouvrages. On a déjà pris contact avec, je dirais, quasiment le 80 ou 90% des propriétaires. et c'est eux-mêmes qui vont venir débarrasser leurs engins. Pour le reste, nous allons l'évacuer à nos frais.
Les propriétaires d'engins ou de biens entreposés illégalement ont jusqu'au 17 mars à midi pour les évacuer. La semaine blanche continue à ravir les passionnés de sports d'hiver de notre région. Nombreuses sont les personnes qui ont choisi de partir dans différentes stations de ski en quête d'or blanc. Les magasins spécialisés dans le matériel de sports d'hiver ont en tout cas eu du travail plein les bras ces derniers jours. Michel Léoni.
La semaine blanche attire toujours du monde, pas de doute de ce côté-là. L'affluence dans les magasins ces derniers temps le confirme. Les Jurassiens aiment profiter de ces quelques jours pour partir à la montagne. Les habitudes ont toutefois évolué et les personnes qui louent du matériel à l'année sont de plus en plus rares. Les amateurs de ski préfèrent attendre de voir les conditions d'enneigement ou louent seulement pour des journées qui ont été prévues à l'avance. Plus que jamais, les magasins spécialisés sont tributaires de la météo. Cela vaut aussi et même encore davantage pour le ski de fond. Dès que les remontées jurassiennes ou les pistes ouvrent, ça se ressent dans les échoppes, selon les responsables. Et cette année, les magasins spécialisés ont connu un véritable boom pendant la période de Noël et Nouvel An, marquée par l'ouverture des stations, y compris dans notre région. Et ça a continué dans une moindre mesure avec les camps de ski de début d'année, avant la nouvelle embellie provoquée par la semaine blanche et d'autres sorties scolaires en montagne au mois de mars. Au Franche-Montagne, chez Sportissimo à Seigne-Légier, on ressent toutefois fortement l'absence de l'or blanc pendant ces vacances scolaires. C'est le calme plat, il n'y a pas de touristes, selon les responsables du magasin. Ce que les échoppes de notre région remarquent aussi, c'est le fort attrait pour le ski de randonnée. Ce phénomène dure depuis les années Covid, quand les remontées étaient fermées et que le seul moyen d'aborder les joies de la glisse était de grimper soi-même en haut des pentes pour les redescendre ensuite. Selon différents magasins jurassiens, plusieurs sportifs avaient tenté cette pratique avant de l'adopter.
Et les sports d'hiver n'auront pas dit leur dernier mot à l'issue de cette semaine blanche. Plusieurs écoles jurassiennes ont prévu leur camp de ski durant le mois de mars. Des anecdotes historiques, croustillantes et décalées sur la ville de Moutier, c'est ce que propose le musée du Tour automatique et d'histoire dans le cadre de ses soirées lecture. La quatrième édition, qui se tiendra dans la cité prévotoise le 27 mars, sera consacrée à la période 1922-1923, soit il y a à peine plus d'un siècle. Stéphane Froidevaux, conservateur au MTAH, nous explique quel est l'objectif de ces soirées et à qui elles s'adressent.
Les soirées lectures sont destinées donc à un public de passionnés d'histoire, qu'ils soient prévôtois ou qu'ils ne soient pas prévôtois. Et généralement, donc, il s'agit de soirées de narration où on reprend ce qu'on a déniché dans les journaux de l'époque, à savoir il y a plus ou moins 100 ans. Là, il s'agit des années 1922-23. Et on raconte un petit peu ben justement quelle était l'actualité de l'époque à Moutier et dans ses environs, bien sûr. Quoi. Il est certain que si d'aventure on tombe sur une anecdote croustillante qui s'est déroulée à quelques kilomètres de Moutier, on ne va pas en faire l'économie. Et comme ça, donc, on a justement un paysage, on a véritablement une lucarne historique sur le Moutier d'autrefois, avec tout ce qui nous rappelle Moutier et tout ce qui nous décale par rapport à cette époque éloignée.
Alors on l'a dit, c'est la quatrième édition de ces soirées lecture. Après trois éditions qui ont rencontré un beau succès à Moutier, comment est-ce que vous expliquez cet engouement autour de ces lectures et plus généralement autour de l'histoire de la cité prévotoise il y a 100 ans?
Alors disons que Moutier est une ville qui a beaucoup changé en très peu de temps, dans la mesure où elle était industrialisée très fortement, ça on le sait. Donc le paysage a changé, la population aussi, elle s'est bigarrée et il est certain que ce décalage par rapport à un Moutier qui était très très différent il y a 100 ans d'aujourd'hui est quelque chose qui intéresse quand même au plus haut point une certaine partie de la population prévotoise et non prévotoise.
Stéphane Froidevaux, conservateur du musée du Tour automatique et d'histoire de Moutier, répondait à Régis Mérilla. La soirée se déroulera le jeudi 27 mars à 19h au restaurant Les Deux Tours à Moutier. Nouvelle démission au département de la Défense. Après la ministre Viola Amerde, c'est au tour du chef de l'armée et du chef du renseignement de jeter l'éponge. L'annonce officielle était prévue pour demain, mais l'information a fuité dans les médias alémaniques. Thomas Jusly dirige l'armée depuis 2020. Christian Ducey avait pris la tête du service de renseignement en 2022. Retour sur leur parcours avec notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
Les deux hommes ont été nommés par Viola Amerde. La ministre avait alors l'ambition de moderniser l'armée et le service de renseignement. Le choix de Thomas Jusly avait surpris. L'argovien avait derrière lui une carrière d'analyste financier dans des établissements bancaires. Mais la conseillère fédérale avait mis en avant son expérience civile, sa capacité à mener à bien de gros projets et ses connaissances cyber. Avec l'engagement de Christian Ducey, Viola Amerde a voulu revoir toute la structure hiérarchique du service de renseignement. Le Valaisan était était alors ambassadeur de Suisse en Iran, il a été choisi pour son expérience de conduite sur les plans opérationnels et stratégiques, mais la transformation profonde du service de renseignement a provoqué une vague de mécontentement chez les collaborateurs et beaucoup ont démissionné. Christian Dusset comme Thomas Susli ont apparemment décidé de suivre leur ministre et de passer la main.
Les membres de la commission de politique de sécurité du Conseil national n'étaient pas au courant de ces démissions. Ils ont découvert l'information dans la presse. La réaction du conseiller national vert, Fabien Fiva.
Bon, c'est évidemment une situation quand même très particulière. On a un changement à la tête du département au 1er avril. Et son successeur devra nommer un nouveau chef de l'armée, devra nommer un nouveau chef du renseignement. Moi, je trouve que dans la situation qu'on vit actuellement, internationalement, très tendue, le problème, c'est qu'il faudra rétablir la confiance dans ce département, rétablir la confiance auprès du personnel, auprès de la population, aussi entre le Conseil fédéral et les parlementaires. Et puis, pour l'instant, c'est une situation que moi, je trouve difficile et qu'il faudra corriger le plus rapidement possible.
Ces démissions interviennent après toute une série de scandales au département de la Défense. Ce n'est donc pas vraiment une surprise. Jean-Luc Adore, conseiller national UDC.
C'est la débandade à la tête des DPS, d'abord la patronne, ensuite le commandant des forces aériennes, maintenant le chef de l'armée et le directeur du renseignement. Donc le nouveau chef du département, je ne dis pas qu'il va se retrouver face à des bureaux vides, mais enfin, ça va être un peu compliqué. Puis d'un autre côté, je pense que c'est aussi une chance, parce qu'il va avoir l'occasion de s'entourer d'une nouvelle équipe pour, je l'espère, donner une nouvelle direction, que ce soit à notre armée ou aux services de renseignement, pour permettre de faire remonter en puissance notre outil de sécurité.
Le chef de l'armée devrait quitter son poste à la fin de l'année, le chef du renseignement en mars 2026. Ces informations seront probablement confirmées demain par le Conseil fédéral.
RFJ, il est 18h13.
RFJ, sport.
La période préférée des hockeyeurs débute pour le HC Franche-Montagne. L'équipe jurassienne de My Hockey League dispute l'acte 1 des quarts de finale des playoffs ce soir. Elle se rend à Zeven à 20h15 pour lancer cette série au meilleur des 5 duels. Le HCFM a affronté les Soleurois deux fois en saison régulière pour 2 défaites. Pour passer l'épaule, il aura besoin de son meilleur atout offensif, Arnaud Steck. Le top scoreur Taignan a terminé meilleur compteur du championnat avec 48 points. Il a aussi brillé en pré-playoff avec 5 buts et en assist contre Vetsikon. C'est sa mission, mais tout ne repose pas sur les épaules d'Arnaud Schneck.
Mon rôle, oui et non, dans le sens, je sais que ça peut venir de moi, c'est mon rôle de marquer des buts, mais c'est clair que bah, voilà, si je peux en mettre, je vais les mettre au fond, mais il y en a d'autres qui ont aussi marqué, donc c'est positif.
Ça va être difficile physiquement ce premier match?
Ah, c'est sûr que les matchs s'enchaînent, si on avait pu finir en 2 matchs, on aurait pris volontiers 1 ou 2 jours de congé en plus. Mais voilà, c'est comme ça. Si la série commence à se prolonger, c'est sûr, la fatigue va forcément rentrer en ligne de compte. Mais voilà, c'est les playoffs et je pense que tout le monde est prêt mentalement à passer au-dessus des petits bobos et de la fatigue. On s'est qualifié pour les playoffs et on va montrer qu'on mérite notre place.
Des propos recueillis par Florian Wolfer. Fabian Frey mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. C'est ce qu'annonce aujourd'hui son club du FC Winterthur. Âgé de 36 ans, le footballeur turgovien présente un riche palmarès. Le milieu de terrain est notamment recordman des matchs de Super League avec 468 apparitions et a été sélectionné à 24 reprises en équipe de Suisse. Il a disputé l'Euro 2016 en France et la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La saison de MotoGP s'ouvrira sans le champion du monde en titre. Jorge Martin a été opéré de sa blessure à la main gauche, contractée hier lors d'une chute à l'entraînement. L'Espagnol ne pourra pas courir ce week-end en Thaïlande lors du Grand Prix inaugural, selon une annonce faite aujourd'hui par son équipe Aprilia. Il sera remplacé par le pilote d'essai Lorenzo Savadori. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.
RFJ Sport.